more the door. Show the goodness and let us have a party tonight, you see. Come out and enjoy life, you see. That's what I'm all about.
Time when the planet's old-growth forests are threatened as never before, Jean-Philippe Marquis has crafted a dazzling and unsettling film essay on forestry practices in the Pacific Northwest, home to the world's tallest trees. Juxtaposing sublime aerial imagery with Velite workplace footage, he meets people whose livelihood is connected to the forest economy and culture, tempering a critique of neoliberal forestry practices with an up-close understanding for people who labor within the system. The opening weekend of Sylvicola will take place at the Cinémathèque Québécois and Cinéma Public, with screenings starting from Friday, March 22nd. For more information, go to cinemapolitica.org/film/Sylvicola. We hope to see you there.
Sego.
Buju Anim.
Danach A. At Anzenu Shukwithan.
Tante.
Hey.
Words and culture weaves conversations with indigenous language and knowledge keepers to learn, celebrate, and connect. Join us as we delve into distinct indigenous language families, beginning in February.
Bonjour et bienvenue à votre émission La Voix des immigrants sur CKUT 90.3 FM à Montréal. La Voix des immigrants, un dialogue de citoyens d'ailleurs traitant d'enjeux des pays en développement, de questions traitées par les Nations Unies et l'OIT, traitant également du travail, des droits de l'homme, du développement durable et de politique publique québécoise. Je m'appelle Moukala, je suis votre animatrice. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous allons parler de travail carcéral et du fait qu'il y ait on veut vérifier s'il y a une surreprésentation ici au Québec également de personnes de couleur. En fait, là, juste pour vous mettre en contexte, j'ai consulté un article le mois passé sur le travail carcéral aux États-Unis et ce que l'on disait, c'est qu'il était surreprésenté par des personnes de couleur. Et également, donc, on va traiter du profil des personnes judiciarisées ici au Québec et vérifier également les personnes racisées sont surreprésentées donc, au sein de cette population judiciarisée. Et de la collecte de fonds de CKUT, la campagne de 2024 qui s'est terminée il y a quelques jours, le 24 mars, mais on en parle, au fond, la collecte de fonds se poursuit toute l'année, donc je vous en parle rapidement. Donc, restez à l'écoute, on se quitte pour une brève petite pause et on se retrouve pour les manchettes du jour.
Cœur à cœur avec toi, CKUT 90,3 FM. CKUT, heart to heart with you.
Me revoilà au micro. Donc, j'indiquais lors de la dernière émission, je crois bien que je voulais faire la promotion des journalistes appartenant au groupe culturel parce que quand je consultais en fait les articles des différents médias, des plus populaires, La Presse, le Journal de Montréal, Le Devoir, je tombais peu sur des individus semblant appartenir à des groupes culturels et puis je trouve ça désolant. Hein. On parle d'une société diversifiée, mais bon, j'ai l'impression que ça ne paraît pas à travers les médias, donc j'ai consulté le site de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et puis il est possible via ce site de faire une recherche pour aller cibler des médias qu'on dit ethniques, donc appartenant à peu près à toutes les communautés culturelles présentes au Québec. Donc on a des médias chinois, italiens, d'Amérique latine, du Portugal, de l'Afrique, des pays arabes, et etc., donc du monde arabe. Vous pouvez donc consulter ce site, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, et faites une recherche, et vous allez tomber donc sur ces différents médias. Et puis, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est tenter, à travers ces médias, de vous présenter donc les manchettes. Beaucoup de ces médias, en fait, sont écrits dans la langue originelle du pays. Mais tout de même, il y en a en français. Donc, voilà, c'est ce que je vais faire à partir de maintenant, promouvoir ces médias culturels versus La Presse, le Journal de Montréal et Le Devoir, qui ne représentent pas, selon moi, la diversité québécoise. Et puis, seconde manchette en lien avec le sujet du jour, donc le travail carcéral. Donc, comme je mentionnais, j'ai consulté un article qui était paru dans La Presse le 30 janvier, mais en fait écrit par la Associated Press, donc un média américain, par Margie Mason et Robbie, je prononce à la française, mais Robbie McDowell. Et donc, on parle du travail forcé aux États-Unis, puis essentiellement, ce qu'on comprend, c'est que le travail carcéral américain, ben, génère beaucoup de sous, et puis, ben voilà, on est à l'émission La Voix des immigrants, et ce qu'on dit au début du texte, c'est que les personnes de couleur se représentent, en fait, sont présentes de manière disproportionnée, donc au sein de ces travailleurs prisonniers et détenus. Donc, des personnes condamnées aux travaux, à des travaux très durs, des personnes qui gagnent peu de sous, hein, donc on parle de quelques cents de l'heure, voire rien du tout, et donc sont punis s'ils refusent. Ce sont des individus donc, qui sont exclus des protections donc, en matière de travail, donc garantie à tous les travailleurs à temps plein, même s'ils sont blessés, bon, c'est ce qu'on dit, donc, ou tués, donc... C'est malheureux. Donc, ils ne sont pas protégés. Et puis, ben, c'est presque impossible pour eux de faire valoir leurs droits. Puis, ben, apparemment, on parle d'une pratique illégale aux États-Unis, donc une pratique qui remonte au 19e siècle, après la guerre de sécession, quand le Sud reconstruisait son économie et avait besoin donc, d'une main-d'œuvre, et puis ben, probablement de main-d'œuvre d'esclaves. Donc, ces détenus et travailleurs, réalisent comme tâche principalement des travaux d'entretien au niveau de la blanchisserie dans la cuisine. Certains travaillent également pour les États, les municipalités donc américaines, entre autres, pour nettoyer après les ouragans et tornades et ramasser donc, les ordures le long d'autoroutes. Également des entreprises privées cherchent à avoir recours à ces travailleurs et détenus donc, dans le cadre de programmes de liberté conditionnelle. Donc, on les trouve dans les grands secteurs, en fait, les secteurs en grave pénurie de main-d'œuvre, où les effets du travail pénible et dangereux. Comme l'abattage de volailles, la transformation de la viande, le sillage du bois, donc des prisonniers en fin de peine également. Donc, ces prisonniers travaillent dans tout le pays. Le point de vue maintenant des responsables en fait de ces prisons, c'est qu'on parle donc ces responsables en fait là, on dit pénitentiaires sont partisans du travail carcéral. Ce qu'ils disent, c'est que le travail n'est pas toujours forcé et permet donc aux contribuables d'économiser de l'argent, bon, probablement parce que ça coûte moins cher, payer ce travailleur et détenu ben, quelques cents de l'heure versus de payer le salaire minimum. Hein. Puis ce travail donne aux prisonniers ben, des compétences qui pourraient leur servir à leur libération, le sentiment d'être utile. Et puis pourrait prévenir également donc, des récidives. Et dans certains cas, on indique que le travail, donc ce travail carcéral peut raccourcir l'incarcération. Donc, et il permet donc à ces prisonniers détenus donc, de rembourser leurs dettes envers la société. Toutefois, ben, il y a des critiques, bien évidemment. Donc, je dirais que ceux qui sont les défenseurs des droits humains indiquent que ces gens sont payés, ben, en fait, sont payés quelques cents à voir rien du tout. Puis c'est ce qui n'est pas acceptable. Hein, et puis, ben, c'est ce qu'on dit, ben, tout travail devait être volontaire, ils sont forcés, ils ne peuvent pas payer, en fait, ou peu payer. Donc, ce travail, le travail, entre autres, non payé, généralisé, et non sécuritaire, surtout. Donc, et selon, donc, en fait, c'est ce qu'affirme Madame Andrea Armstrong, professeure de droit et spécialiste de travail carcéral à l'Université Loyola de la Nouvelle-Orléans. Puis, ce qu'elle indique, c'est que, donc, au final, ces détenus n'acquièrent pas les compétences qui leur serviraient donc, après donc, leur libération, donc, hein, après avoir en intégrant donc, la société, là, si je peux dire. Donc, voilà. On était aux États-Unis et c'est pour ça que je me suis posé la question à savoir si au Québec également ben, cette réalité du travail carcéral existe et puis en fait se représenter par les personnes appartenant donc au groupe racisé et au groupe vulnérable en général. Et donc j'ai interviewé, on va écouter l'interview un peu plus tard, donc un agent de service correctionnel au Canada. Donc, et je lui ai posé la question, puis. Donc, vous entendrez avec moi la réponse un peu plus tard, mais juste avant, on se quitte pour une brève petite pause musicale. Donc, on va écouter une pièce, donc une chanson chantée par les esclaves américains, donc à l'époque, qui leur permettait donc, de réaliser le travail plus facilement. Donc, le titre de la pièce, « Oh, Hemaho ». Donc, Ohemaho, puis une pièce, une courte pièce. En fait, on écoute un extrait de la pièce, une minute, mais bon, hein, voilà. Donc, là, c'est difficile, en fait, d'entendre la pièce musicale. On essaie de se remettre dans la peau de ces individus. Puis, je trouve que c'est un peu frustrant. Et puis, bon, mais voilà. Hein, on est en 2024, et puis, ben, c'est ça, c'est une autre époque, hein, c'est ce que certains disent. Puis, bon. Donc, il faut avancer plutôt que de se remémorer c'est le passé. Donc, on se laisse et on se retrouve donc, dans une minute.
Oh, Emma, oh, you turn around, dig a hole in the ground. Oh, Emma, oh, oh, Emma, oh, you turn around, dig a hole in the ground. Oh, to pull these weeds.
Oh, Emma, oh, you turn around, dig a hole in the ground. Oh, Emma, oh,
Emma works harder than two grown men.
Oh, Emma,
oh,
you turn around, dig a hole in the ground. Oh, Emma, oh, oh.
Le revoilà au micro, donc c'était la pièce Ohemaho, donc une pièce chantée par les esclaves américains à l'époque. Pour faire suite maintenant à notre manchette du jour sur le travail carcéral, donc j'ai dit qu'on allait aborder le sujet et vérifier si ici également au Québec, chez les détenus, donc réalisant ce travail, ben, il y a une surreprésentation en fait là, de ces détenus appartenant à des groupes stigmatisés ou racisés. Donc j'ai consulté une publication de l'organisme Alter Justice Québec, un groupe d'aide et d'information aux personnes judiciarisées, donc qui parle entre autres du travail carcéral, une publication mise à jour le 21 juillet 2021. L'article se nomme Travail, activité et salaire en détention. Puis voilà, donc essentiellement, donc, l'objectif principal pour ces personnes incarcérées est qu'elles puissent avoir accès à un travail, à une formation en fait académique de base et à des activités socioculturelles. Et donc, l'article parle en fait là, du travail carcéral dans les pénitenciers du fédéral et également au provincial, donc au Québec. Chez les détenus, donc les pénitenciers canadiens, conformément à leur plan correctionnel, donc ils peuvent participer à toutes sortes de programmes et toutes sortes de tâches en échange d'une rémunération. Donc principalement au niveau des tâches, on parle donc de, je l'avais lu, on parle de tâches donc de nature physique ou manuelle, donc tout emploi ou programme de formation scolaire ou professionnelle, mais des tâches de nature physique ou manuelle, l'assignation. à ces tâches se fait généralement assez rapidement, soit dans les 2 semaines qui suivent l'admission du détenu donc au pénitencier, et les salaires de 5,25 à 6,90 par jour. Les moins payés sont ceux qui occupent l'emploi auquel ils ont été affectés, mais qui refusent de participer à tout autre programme prévu donc dans le plan correctionnel, ou également donc qui n'ont pas de plan correctionnel et qui refusent de participer à tout programme auquel le comité des programmes les affecte. Donc, ces salaires, viennent d'où? L'argent reversé donc, à ces détenus provient de l'État. Bon, c'est quand même... c'est pas une mauvaise chose. Néanmoins, les détenus doivent cotiser à un fonds appelé la Caisse de bienfaisance et qui sert, entre autres, à défrayer les activités sociales, éducatives et récréatives. Du côté du Québec, maintenant... Donc, on a des activités, en fait, des programmes visant donc des activités de travail, activités de formation et de loisirs et socioculturels. Certaines personnes incarcérées exercent un travail en détention rémunéré ou non. Donc, on va s'attarder sur la question des activités de travail, bien évidemment. Donc, l'accès au travail permet à plusieurs personnes incarcérées d'apprendre un métier en plus du fonctionnement proprement dit du marché de l'emploi. Donc, on leur permet donc d'apprendre en fait sur la ponctualité, l'attitude, etc. Donc, l'objectif principal est de responsabiliser ces personnes, d'accentuer leur rapport au niveau de l'ensemble de la société et de leur fournir un ensemble d'outils susceptibles de faciliter leur réintégration sociale. Donc, au niveau des tâches, c'est ce qui est pertinent. Donc, on part de services de lavage et de la vaisselle, dans les cuisines de l'établissement, service de buanderie également, donc pour l'établissement, l'entretien paysager et la tonte de gazon. Et les détenus qui travaillent donc reçoivent une rémunération correspondant à 35% du salaire minimum. À l'époque, l'article a été publié en 2021, donc on était à 35% en 2021. Donc, si on lit entre environ 3 $ de l'heure, c'est très peu, alors que ceux inscrits à l'école ou ceux qui vont, qui veillent à l'entretien de la prison ont droit à une allocation de quelques dollars par jour. Et puis, les montants varient selon les établissements. Le salaire versé ici également ne provient pas de l'État, mais des fonds de soutien à la réinsertion sociale. Donc, oui, également au Québec et au fédéral, donc les travailleurs, en fait, les détenus exercent certaines tâches, mais on ne mentionne pas, en fait, s'il y a surreprésentation, en fait, des groupes stigmatisés, vulnérables. J'ai donc consulté un article qui parle du profil de ces personnes judiciarisées au Québec, une publication de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, une publication de 2021 donc par les chercheurs en fait Pierre Tircher T-I-R-C-H-E-R et Guillaume Imbert. Puis 2021, mais bien évidemment donc les données sont encore pertinentes aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de publications sur cette recherche à l'époque en 2021. Donc, vous lirez beaucoup de publications des médias principaux, la presse, etc. Bref, pour vous résumer un peu la publication, donc... Là, on parle, oui, effectivement, d'une judiciarisation de la pauvreté, puisque les jeunes, les personnes peu scolarisées, les autochtones, les personnes racisées et les bénéficiaires de l'assistance sociale sont surreprésentés. Puis, les chercheurs disent que, face à ce constat, des actions devraient être envisagées pour remettre en question l'approche pénale répressive et stimuler les opportunités économiques de ces personnes, pour lesquelles, évidemment, il y a les barrières d'accès à l'emploi qui sont donc renforcées du fait de leur passage en prison. Donc, pour quelles raisons on a donc ces groupes stigmatisés, racisés, vulnérables, qui sont surreprésentés? On parle de stigmates, de liens discriminatoires, de stéréotypes, préjugés, donc du rapport avec la police qui est négatif, qui font en sorte que on a tendance à, réprimander davantage ces personnes. Donc, par la suite, donc, il y a tous ces stigmates bien discriminatoires qui font que possiblement on vise ces gens. Et par la suite, au moment donc, du passage devant les tribunaux, le manque de moyens et la difficulté d'accès à des ressources juridiques peuvent fondamentalement diminuer les chances de ces personnes donc, pour se défendre adéquatement. Donc, car selon Emmanuel Burnham, donc, ces personnes, ces détenus se retrouvent défendus par des avocats généralement déportés, sous-payés et disposant de peu de ressources. Et donc, bien évidemment, bien, ça mène davantage à des verdicts de culpabilité. Intéressant maintenant, les chercheurs reconnaissent qu'historiquement, le droit pénal a été utilisé pour contrôler les populations minoritaires et marginalisées comme les autochtones ou les personnes souffrant de troubles mentaux. Puis on parle donc, en fait, apparemment, les personnes itinérantes font partie de ce groupe de personnes vulnérables, donc surtout lorsqu'il y a des problématiques de santé mentale qu'on élimine en incarcérant, en les incarcérant. Puis ben, plusieurs recherches en parlent, notamment donc, des recherches là, réalisées en contexte montréalais. Donc, on parle d'intensification de la judiciarisation de la pauvreté qui a été observée donc, dans les dernières années, plutôt qu'un investissement dans les politiques sociales, avec une inaccessibilité de plus en plus notable aux services juridiques. Donc, intensification de la judiciarisation pardon, de la pauvreté, puis ben, parallèlement, donc, une inaccessibilité de plus en plus notable aux services juridiques. Puis, donc, la même chercheuse, Emmanuel Burnham, parle de néolibéralisation du droit social. Donc, je dis bien néolibéralisation du droit social. Et donc, voilà, j'ai essayé de comprendre ce concept veut dire quoi. Hein? Puis, en fait, donc vous lisez un peu sur le néolibéralisme, la néolibéralisation, puis on fait le lien rapidement, on comprend qu'il y a une dimension économique maintenant rattachée au droit et du fait qu'on parle, on va le voir un peu plus tard, donc de dimension économique, donc on incarcère davantage ces personnes parce que, ben voilà, c'est moins coûteux les incarcérer versus probablement investir dans des politiques, des programmes sociaux. Maintenant, donc, c'est un bref gros résumé et précisément, donc, en quoi consiste donc, cette réalité donc, de surreprésentation des personnes pauvres en premier lieu. Donc, on constate, en fait, selon en fait, les données de 2020, près de 50% de la population carcérale était assistée, en fait, obtenait des revenus de l'assistance sociale comparativement à 5%, donc 5% de personnes bénéficiant de l'assistance sociale au Québec versus 50% dans la population carcérale. Puis les femmes assistées sociales sont davantage en fait représentées ou se retrouvent davantage en prison versus les hommes. Maintenant, si on tient compte des personnes racisées, donc, selon le recensement de 2016, le pourcentage de personnes issues de groupes, donc des minorités visibles, était de 13%. Or, la population carcérale au Québec comptait 33,42% de personnes ayant le teint moyen ou foncé. Puis, ben, c'est étonnant, hein? Mais l'article parle, oui, de personnes ayant le teint moyen ou foncé parce que, bon, on vise les minorités visibles. Et donc, on parle, si on s'en tient, donc, en fait, si on fait fi de cette qualification de teint moyen ou foncé, au Québec, à la même époque, en fait, je peux me tromper en erreur. Donc, il y avait une surreprésentation de l'ordre de 2.6% supérieure donc au poids démographique de ces personnes dans la population québécoise. Toutefois, on parle de minorité parce qu'en fait, la publication parle de personnes ayant le teint moyen ou foncé. Or, dans les recensements canadiens, on ne parle pas bien évidemment de personnes ayant le teint moyen ou foncé. On parle de personnes issues des minorités visibles. Et donc, voilà, c'est clair que si on analyse un peu le tout, la recherche écarte un certain nombre d'individus qui se retrouvent en prison, qui appartiennent à des groupes, peut-être n'ayant pas le teint moyen foncé, mais tout de même jugés appartenant donc à des minorités culturelles, minorités visibles, pardon. Et parce que ben, dans l'article, dans la publication, on parle effectivement des personnes arabes qui peuvent avoir un teint plus pâle, donc un teint clair, des personnes asiatiques également. Donc, on a 33,42% de personnes ayant un teint moyen foncé, mais après, on écarte donc les personnes issues de la communauté arabe, des communautés asiatiques, des communautés hispaniques également. Donc, dans d'autres publications, on parle de l'augmentation de l'incarcération de ces personnes d'origine hispanique, asiatique, arabe. Donc depuis un certain temps, donc probablement que le taux donc est plus élevé. Est-ce qu'on est à 33,42% d'incarcération de ces personnes appartenant dans les faits à des groupes vulnérables, stigmatisés, racisés, probablement davantage. Maintenant chez les autochtones, ils représentaient donc 2,3% de la population québécoise. Or, en 2016, dans les prisons, donc dans les services correctionnels québécois, on retrouvait en 2016, toujours, en fait en 2019-2020, 6,6% de personnes appartenant donc à ce groupe de personnes autochtones. Les Inuits sont les plus représentés. Puis, cette surreprésentation de personnes autochtones n'est pas un phénomène nouveau. Selon le ministère de la Justice du Canada, donc, c'est une réalité qui existe depuis bien longtemps, en fait, une réalité documentée dans certaines provinces canadiennes. Donc, on parle de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Saskatchewan, l'Ontario également. Ces taux de surreprésentation peuvent atteindre 26 %. Et les femmes, une fois de plus, si également, en fait, plutôt, sont surreprésentées parmi ces personnes autochtones se retrouvant donc incarcérées. Donc, le ministère de la Justice fédérale, en 2019, a déploré cette surreprésentation donc des personnes marginalisées, puis ben, reconnaît que le système donc, cible davantage ces individus, puis reconnaît parallèlement qu'il y a une inadéquation donc, des outils actuels pour répondre aux besoins spécifiques de cette population. Et selon plusieurs auteurs, donc, cette fameuse néolibéralisation du droit a renforcé donc, des logiques répressives. Et donc, je mentionnais qu'il y avait une dimension économique à cette néolibéralisation du droit, donc plus coûteux d'investir dans les politiques sociales versus les incarcérés. Selon donc le sociologue Loïc Wacant, W-A-C-Q-U-A-N-T, donc il y a une politique de tolérance zéro actuellement, donc qui est caractérisée en fait par une très forte répression des petits délinquants. Et donc cette politique, donc c'est ce qu'elle incarne parfaitement cette réalité actuelle de la néolibéralisation du droit. Une politique en fait, cette politique tolérance zéro, popularisée par l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, dans les années 1990, une politique qui a inspiré de nombreux pays nord-américains, peut-être le Canada. Puis, donc voilà, on incarcère rapidement les petits délinquants qui peut-être ne mériteraient pas de se retrouver donc, derrière les barreaux. Et donc, toujours dans cette même, je dirais, ère de personnes appartenant à des groupes stigmatisés, vulnérables, etc., se retrouvant derrière les barreaux chez les Autochtones, j'ai considéré un second article qui parle spécifiquement maintenant des Inuits. Donc, le taux de détention des Inuits serait de 15 fois supérieur à celui de la population autochtone. Je le lis bien, oui. Donc, un article de Jacob Serrebrin, donc publié dans la presse canadienne le 25 février 2023. Donc, le taux de détention des Inuits dans les prisons québécoises est de 15 fois supérieur à la moyenne provinciale. Selon donc des statistiques, 4,5% des Inuits vivant au Québec ont été emprisonnés dans un lieu de détention provinciale au cours d'une période d'un an, s'étant terminé au 31 mars 2022. Donc, on comprend qu'en 2022, au 31 mars, on a réalisé une étude et puis 4,5% des Inuits vivant au Québec avaient été incarcérés donc, pendant à l'intérieur d'une période d'un an ici au Québec. David Boudreau, un avocat du bureau d'aide juridique travaillant dans le Nord québécois, estime que ben voilà, cette réalité résulte d'un manque de ressources. Apparemment, donc, selon lui, les programmes visant à prévenir les crimes ou à détourner les contrevenants du système judiciaire ne sont pas souvent disponibles dans, par exemple, au Nunavik, où se retrouve la majorité des Inuits de la province. M. Boudreau estime que, en fait, parle notamment donc, de l'absence de programmes d'éducation sexuelle ou de services également permettant aux gens de guérir de traumatismes, et qui fait en sorte que, bien évidemment, ces gens-là ont vécu donc, des traumatismes et se retrouvent à commettre des crimes versus plutôt à guérir et à prévenir, à, ne, voilà, à guérir. Donc, la seule aide accessible aux résidents est souvent offerte par des travailleurs sociaux qui n'ont pas tous et toutes les capacités professionnelles nécessaires pour s'occuper de ces problèmes. Donc, en conséquence, ben, finalement, donc, ces gens sont incarcérés. Donc, bien intéressant. Puis, pour clore le sujet, j'ai, comme je l'ai mentionné en début d'émission, donc, discuté avec un agent de service, des services correctionnels canadiens qui nous parle donc, justement donc, ben, du fait que oui, ben, en fait, on a voulu vérifier avec lui s'il y avait une surreprésentation donc, des personnes appartenant au groupe cible, stigmatisées, racisées, personnes autochtones dans les prisons québécoises ici au Québec. Et également, monsieur nous parle donc, du travail carcéral. Donc, voilà. Une entrevue de 13 minutes. À la suite de l'entrevue, on écoute ensemble la pièce musicale « Roméo le Miraculeux ». Donc, merci maman, Roméo le Miraculeux, un artiste congolais. Puis voilà, une belle pièce qui fait honneur à toutes les mères du monde. Et on se retrouve donc par la suite pour clore l'émission. Monsieur, vous êtes agent de programme correctionnel au Service correctionnel du Canada. Votre travail consiste en quoi exactement?
Un agent de programme correctionnel travaille avec les personnes incarcérées. Ces personnes présentent plusieurs problématiques. On parle entre autres de toxicomanie, de violence. Et l'agent de programme, ça c'est entre autres, l'agent de programme travaille à la réinsertion de ces personnes-là. Donc, comprendre les problématiques sous-jacentes aux problématiques que je viens de citer, par exemple la violence, par exemple aussi la toxicomanie, la délinquance sexuelle. Donc, nous travaillons un peu pour les aider à bien comprendre la dynamique, bien comprendre les raisons qui font en sorte qu'ils ont commis des crimes, pour qu'à l'avenir, ben, ils puissent changer les choses qui les nuisent pour avoir une meilleure réinsertion sociale.
OK. Donc, vous êtes agent de programme correctionnel. Si on discute maintenant du profil des personnes judiciarisées, hein, c'est ce qu'on veut aborder comme sujet aujourd'hui. La présence, selon vous, de personnes blanches, autochtones, personnes racisées, est-ce qu'elle correspond à leur présence, en fait, dans la population québécoise en général? C'est-à-dire que quand on analyse la population carcérale, est-ce qu'on retrouve une surreprésentation, hein, donc de personnes racisées et autochtones?
Quand il s'agit du Québec, je ne pourrais pas nécessairement dire qu'il y a une surreprésentation, mais c'est sûr qu'il y a une présentation évidente de personnes autochtones, mais il est beaucoup plus visible au niveau canadien et non au niveau québécois. On peut voir, ben, il y a des personnes racisées, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il y a une surreprésentation de ces personnes dans les prisons québécoises. Au niveau Canada, parce qu'au niveau provincial, ça pourrait être un peu plus différent, mais moi, je travaille au niveau du gouvernement fédéral, donc dans un pénitencier au Québec. Donc, je ne vois pas pour le moment une surreprésentation de ces populations.
Okay. Et donc, vous dites au niveau du Canada, donc vous voulez parler donc des provinces en dehors de celles du Québec.
Exactement. Donc, je donnerais plus un peu l'exemple Saskatchewan, Alberta. On pourrait en ce moment-là trouver plus de personnes autochtones. Une surreprésentation, ça s'est documenté aussi. C'est vraiment relié aussi au niveau de vie, aux problématiques que l'on trouve dans ces populations-là. Et ça fait en sorte qu'on en retrouve un peu plus dans les prisons.
OK. Bon, vous dites qu'il n'y a pas de surreprésentation des personnes racisées, autochtones au niveau provincial, donc au niveau québécois. Mais tout de même, selon vous, est-ce qu'il existe des stigmates, des biais discriminatoires, des stéréotypes et préjugés négatifs, bien évidemment, à l'égard donc des détenus appartenant donc au groupe racisé et au groupe autochtone?
Les préjugés qu'on va retrouver en prison sont représentatifs de qu'est-ce qu'on en retrouve dans la société en général. Donc ça commence par le système judiciaire, ça va aller jusque dans la prestation des services. Donc il existe des préjugés, des biais défavorables pour ces populations là. Et donc, pour moi, c'est vraiment une évidence. Donc, mais je pense que de plus en plus, de par ma pratique, je vois qu'il y a une certaine, comment je dirais, le système commence à reconnaître qu'il peut y avoir des biais défavorables pour ces populations-là. Et il y a des programmes, il y a de la sensibilisation qui est faite je viens même d'avoir une formation là-dessus, donc il va y avoir de plus en plus de sensibilisation par rapport à ces problématiques-là.
OK. Et quand vous dites qu'il existe des préjugés, des biais défavorables par rapport à ces personnes, donc quand on parle des services, vous voulez parler de quoi exactement?
Ben, je pourrais pas être précis nécessairement. Je donnerais peut-être un exemple au niveau peut-être, quoique au niveau autochtone, il commence à avoir de plus en plus des programmes juste dédiés à ces personnes-là. Mais je dirais, par exemple, dans la population noire, on n'a pas nécessairement un programme correctionnel qui vise juste ces populations-là. Donc ça, je dirais que ça pourrait peut-être être un bonus pour mieux comprendre ces populations-là. Mais je dirais, c'est beaucoup plus, dans le fin fond, tout ce qui est biais défavorable ou préjugé, c'est jamais quelque chose de très clair avec des lois qui sont nécessairement claires. Ça va être dans les pratiques des personnes à l'intérieur de ces systèmes-là qu'on pourrait voir, et ben, comme ces personnes-là sont en autorité, mais ça va avoir un impact sur les personnes. Donc, c'est jamais visible, mais c'est beaucoup plus dans la façon qu'on va traiter ces personnes-là quand ils vont rentrer dans le système judiciaire, par exemple.
OK. Mais est-ce que vous avez un exemple précis?
Je pourrais pas donner un exemple précis, une généralisation, ce serait beaucoup plus de voir que, une personne noire, ben c'est un gang de rue. Ça c'est quelque chose qu'on peut quand même voir. Donc il y a déjà un certain préjugé par rapport au traitement. Puis les sentences, je sais pas si les sentences, ça je pourrais pas, j'oserais peut-être pas aller de ce point de vue là. Mais je pense que au niveau des préjugés, notamment les gangs de rue, ben c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus quelque chose qu'on voit le plus souvent, les condamnations par rapport à ces problématiques là donc on le voit un peu plus pour ces personnes là ou encore les personnes autochtones que bon, on va dire ben ça, la personne vient du nord, donc c'est l'alcoolisme ou la toxicomanie. Donc c'est sûr que ça va être traverser les personnes, ça va traverser dans l'esprit des personnes qui vont avoir ces populations-là dans leur dossier, par exemple.
OK. Donc, au niveau du travail effectué, il y a déjà des biais qui sont présents, donc le travail est différent, donc la personne est... plutôt que de considérer une personne humaine, on perçoit, donc on a une personne autochtone devant soi qui est alcoolique, et donc déjà le traitement est différent. De quelle façon, vous dites?
Ben le ça va pas nécessairement, parce que nous avons quand même des lois qui nous protègent un peu de tout ce qui est racisme autour ces problématiques là Par contre, ça va être les personnes qui vont peut-être avoir en charge des personnes racisées, par exemple. Si ces personnes-là qui ont en charge les des détenus autochtones ou autres ont déjà un certain préjugé, mais c'est sûr que le traitement, il va pas être nécessairement équitable par rapport à une personne québécoise de souche, par exemple. Donc, c'est pas quelque chose qu'on verrait, que c'est pas visible, mais qui pourrait probablement avoir un impact sur ces cas-là.
Maintenant, concernant le travail carcéral. Donc, vous êtes agent de programme correctionnel, vous travaillez à la réinsertion donc des détenus. Est-ce que donc vous gérez entre autres des programmes carcérales?
Exactement.
Des programmes de travail carcéral?
Non, moi je ne gère pas de programme carcéral, mais il existe des programmes pour tous les détenus qui arrivent dans le système carcéral fédéral.
Okay. Et spécifiquement pour le travail effectué en milieu, donc en prison, est-ce que vous pouvez m'en parler?
Ben, je pourrais juste vous en parler en tant qu'observateur et non une personne qui donne du travail à ces personnes-là. Donc, je peux vous donner comme des exemples, mais... Okay.
Et donc, en tant qu'observateur, donc, on a des détenus donc, appartenant à tous les groupes, donc de souche, puis ben, personnes racisées, personnes autochtones. Donc, est-ce que les programmes visent de façon, je dirais, équitable à la fois les personnes de souche versus les personnes racisées?
Ben, de façon générale, mais ça c'est juste mon observation, je pense qu'en termes de travail... on propose à tous les détenus qui rentrent au système fédéral un travail qui est disponible. En ce moment-là, je peux pas nécessairement voir si il y a des préférences. Donc, je suis mal placé pour le dire, dans le fait.
OK. Puis, quel genre de tâches, moi, à titre d'observateur, les détenus réalisent?
Ben, ça, c'est du nettoyage la majorité du temps travail à la cuisine. Ça, c'est beaucoup plus... C'est le travail général qu'on trouve en prison.
OK. Puis, est-ce que vous êtes au fait des conditions de travail de ces détenus qui réalisent des tâches donc en milieu carcéral, donc point de vue de la rémunération principalement?
Ben, la rémunération est balisée au niveau fédéral et... tout détenu à un certain montant, je pense c'est des grades, dépendamment de la performance. Performance, je veux dire, avec le temps, la personne qui reste à un certain type d'emploi pendant un certain temps va avoir une évaluation de son instructeur, puis il va avoir un grade qui va être donné par la suite, et ce grade-là monte jusqu'à un certain niveau. Puis je pense que le traitement est quasiment, je pense que tous les détenus passent par ce même processus-là.
OK. Mais est-ce que vous savez si on... Parce que dans la littérature, on parle d'une rémunération qui est faible, hein, qui est en deçà du... qui est balisée, comme vous dites, donc, mais en deçà du salaire minimum, c'est-à-dire... vous pouvez nous confirmer que c'est le cas?
Oui, oui. Le salaire n'est pas le même que un citoyen libre. Le salaire est pas mal plus bas, ça, c'est certain.
Okay. Ouais. Et plus bas, quel niveau? Est-ce que vous avez une idée de...
J'ai pas les chiffres, je veux pas vous tromper, mais j'ai pas les chiffres. J'ai pas les chiffres. Je sais que le salaire minimum est à peu près à 15 ou 16 dollars, mais le salaire minimum en prison est vraiment en deçà de ça. Donc, il doit y avoir des raisons pour lesquelles c'est fait de cette façon-là, mais c'est comme ça.
OK. Ben, je vous remercie. Puis, d'après vous, on peut faire quoi pour améliorer? Bon, vous êtes agent de programme correctionnel. On parle des personnes... on est à l'émission La Voix des immigrants, donc des personnes racisées, autochtones, appartenant donc au groupe culturel. Est-ce que, bon, vous dites qu'il n'y a pas de traitement, je dirais, des favoris. Il y a des biais, certes, vous dites, à l'égard de ces personnes. Mais bon, ce n'est pas nécessairement apparent, puis c'est moins flagrant qu'au niveau du système fédéral, donc en dehors de la province québécoise. Mais d'après vous, il y a des programmes de sensibilisation, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir, en fait? Est-ce que vous pensez que les choses vont changer? Comment faire, en fait, pour qu'il n'y a plus de biais discriminatoires dans le traitement de ces détenus appartenant à des groupes racisés? Est-ce que les formations actuelles sont nécessaires? Est-ce que ça prend autre chose?
Ben, ça prend de l'éducation, ça prend de la formation, c'est la base. Donc, tout ce qui est traitement raciste ou traitement inhumain de l'autre se base beaucoup sur le manque de connaissances. Donc, il faudrait commencer par la base, c'est-à-dire informer les personnes, avoir des témoignages des personnes racisées, donner de la formation, avoir des possibilités d'avoir des débats. Donc, je pense qu'en ce moment-là, ben, les gens vont comprendre l'autre et de cette façon-là, ben, les traitements vont être différents aussi et en s'améliorant, bien sûr.
Parfait. Je vous remercie.
Okay. Merci beaucoup.
Maman, tu es tout pour moi. Je me mets à neuf fois dans le bon oeil à Pambaté. Romeo le miraculé. Na pe si un zembo loko la kado. Po yo uti na katia mouté mananga.
So kende me ya tunaka. Papo sa ya moutoué. Ava sa la ni kambo na mon kilo ya se. Na linga ye na se na ye. Po ya nga mama ye. Ati ka l'internet na mon kilo ya se. Po boli mwa porta. Mazali pamboli na mokilo ya se mama za nyoso na mokilo ya se ya yako bomba kate oyo mama atazangi mbongo
azaka ka mama
ya yako bomba kate oyo mama atazako ka
azaka ka mama
koyoka soni te kula kise yo mama atazangi bilamba
Êtes-vous locataire à Montréal? Avez-vous des questions sur vos droits? Votre comité logement peut vous aider. Pour trouver le comité logement pour votre quartier ou pour plus de ressources, visitez le www.rclalq.qc.ca.
Me revoilà au micro, l'émission est terminée. Donc, c'était la campagne de financement de CKUT du 15 mars 2024 au 24 mars. On est le 28 aujourd'hui, donc la campagne s'est terminée dimanche passé. Mais je vous en parle, je ne vous en ai pas parlé lors de la dernière émission là, qui était autour du 22 février, un peu tôt. Je préférais vous en parler aujourd'hui, puis ben, vous écoutez CKUT, vous le saviez. Hein? Je dis c'était pendant les deux semaines, l'ensemble des animateurs en fait parlaient donc de cette campagne, donc. La campagne n'est pas terminée, en fait, elle se déroule tout au long de l'année, donc d'où la raison pour laquelle je vous en parle toujours, il est possible encore d'effectuer des dons. On a atteint donc notre cible de 50 000, mais bon, est-ce que 50 000 c'est suffisant? Pas nécessairement. Donc, en 2023, ben, il y a eu beaucoup de nouveautés. On parle de l'émission Radio is Dead, une émission de jeunes, en fait, de jeunes étudiants. Donc, une émission d'exploration étudiante et également, puis je vous invite à consulter le site web de CDD, ça a l'air très intéressant. Donc, on a deux dames, je pense, Pat Dillon Moore et avec une collègue, puis Kioni Picou, qui ont exploré la ville de Montréal et ont capturé les histoires d'ancêtres de la communauté afro-caribéenne avec une concentration sur les musiciens, puis les enregistrements et vidéos donc, capturés par Madame Kale Robinson seront en fait, peut-être que c'est pas Kale Robinson en fait, mais donc ces deux dames seront sur les ondes donc, et sur le site web donc, dès cet été. Je vous invite à le consulter. Également, donc, en 2023, donc, il y a eu le recrutement donc, d'un reporter, Jules Buguiel, je le prononce à la française également, mais... Et puis, reporter du Local Journalism Initiative, et puis donc une ressource incroyable pour la communauté, mais également pour CKUT. Et donc, toutes ces avancées ont été possibles grâce à la campagne de financement donc, de 2023, et c'est pour ça qu'on a encore besoin que vous nous donniez des sous cette année. L'année passée, on a ramassé ben, non pas un 45 000 qui était l'objectif, mais un 54 000. On s'est arrêté à 50 000, mais un 54 000 cette année, ce serait l'idéal. Puis, ben, chaque année, ben, les sous ramassés permettent donc de s'assurer que la sécurité, la station demeure en vie. Donc, on a besoin également donc, pour, entre autres, la paix, la rémunération des quelques salariés de l'équipe, mais également pour l'équipement, etc. Donc cette année, la demande est encore plus pertinente hein, parce que ben, on fait face à un déficit qui met notre futur à risque avec les coûts ben, pour plus élevés pour à peu près tout. On n'a pas d'accès à des revenus publicitaires, les frais étudiants également diminuent, donc frais étudiants qui servent entre autres à financer donc la radio diminue. On parle également d'une réduction en fait potentielle des inscriptions aux universités anglophones, bon, étant donné donc le goût, hein, qui a toutes sortes de belles idées en tête ou des fois moins intéressantes. C'est une station donc, à but non lucratif, donc on dépend vraiment de vous sous et c'est pour ça qu'on vous invite à effectuer des dons. On essaie d'atteindre le 54 000. Donc, pour effectuer les dons, visitez notre site web, vous avez donc le ckut.ca/donate, ckut.ca/donate, et puis voilà. Donc, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Vous savez que j'effectue du bénévolat donc, au Centre des travailleuses et travailleurs immigrants. Et puis, ben, on a toujours, hein, et puis, ben, ce sera le cas éternellement, hein, donc l'Association des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires et des travailleuses et travailleurs d'agences de placement. Et puis, donc, le numéro 514-342-2111, 514-342-2111. Si vous avez besoin de discuter de conditions de travail, je dirais difficiles. Et donc, on se rejoint le 25 avril 2024 pour la prochaine émission. On va discuter de l'implication communautaire. Puis, ben voilà, M. Legault a adopté en fait, un plan d'action gouvernemental pour l'implication communautaire, je pense, là, qui, jusqu'en 2027. Et puis, voilà. Et donc, on vous invite à vous impliquer, mais je vais vous inviter officiellement à vous impliquer en avril 2024, donc le mois prochain. Donc, 514, en fait, 448-4041, donc poste 6788, le département des nouvelles. Et également, nous avons le courriel news@commercialsécurité.ca. Et nous avons également donc les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Donc, si vous avez besoin voilà, de discuter de l'émission, donc de présenter des sujets que vous voudriez qu'on aborde, rejoignez-nous. Et donc, je vous laisse et on se dit donc au 24 avril prochain. Merci.
Thursday, March 28th at La Sala Rosa, Orquesta Criminal launches a brand new album of criminal tunes sung in Yiddish, Bosnian, Greek, Arabic, Polish, Hindi, Spanish, Norwegian, and mixed Dengo. Orquesta Criminal is a gender-balanced 10-piece of improv performers busting out adventurous gangster songs from a dangerous and forgotten era. Thursday, March 28th, Orquesta Criminal album launch at La Sala Rosa with special guests La Delegación. Tickets $20 in advance at CasaDelPopolo.com. Doors at 7. A co-presentation of Sueli Perel Popolo and CKT.
Black Theater Workshop presents Every Day She Rose by Andrea Scott and Nick Green. After the Black Lives Matter protests at the 2016 Toronto Pride Parade, two friends find their racial and queer politics aren't as aligned as they thought. Don't miss the Montreal premiere of Every Day She Rose at Théâtre Espace Libre from April 3rd to the 14th. Visit blacktheaterworkshop.ca to book your tickets today. This is a Black Theater Workshop production and CKUT co-presentation.
Our memories as a community are the heart of our legacy, helping us create a journey down the lanes of time. Do you have photos, videos, or audio recordings of West Cannes performances, rehearsals, or events? We want them all. We are building a special archive to showcase the beautiful moments we've shared together. Dust off those old photo albums, dig into your video archives, and share your West Cannes memories with us. Simply contact 514-641-9149. Let us relive the joy, laughter, and the cultural richness that has defined West Cannes for almost 50 years.
United Nations. Thank you. Good evening. It's 6 o'clock. And you're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio. From drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between. Professional, student, and community productions in and around Montreal, the island also known as Jojage in the Ganyagaha language, and Muniyang in Anishinaabe Mohan, where we spell theater with an R-E at the end. I'm your host, Sarah De'Ay, live in studio on Thursday, March 28th, 2024. I'm joined here by Xander Chung, who will be popping up later on in the show. And let's start with some business, some accounting. CKUT's annual funding drive wrapped up on Sunday, and we met our goal of $50,000. Thank you to everyone who contributed some money towards this annual fundraiser. CKUT needs the extra support. We do get money from student fees and, like, I guess government grants from time to time, but it's a little bit of extra money that makes things work here. It's a volunteer-powered station, and we appreciate your support. Now, the final tally for Upstage's donors